Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast consacré au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast dédié au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. J'annonçais lors de l'épisode précédent un podcast sur le bestiaire d'Alain avec Pierre Audier. Des problèmes techniques ayant rendu cet épisode provisoirement impossible, je traiterai donc d'un autre sujet, le chef. La question de l'autorité est l'une des plus discutées dans la partie politique de la pensée d'Alain, qui se révèle un critique impitoyable de toute forme de pouvoir. Cela lui a d'ailleurs été reproché. Par exemple, Aron dénonçait le ton sur lequel Alain avait traité les officiers de la Première Guerre mondiale en disant que c'était bas, critique extrêmement dure. Mais bien d'autres, en revanche, se sont reconnus dans cette dénonciation des abus de l'autorité qu'Alain considérait inévitable, car c'est dans la nature d'un pouvoir d'excéder toute limite. Dans cette réflexion sur l'abus du pouvoir, mais aussi le pouvoir comme abus qu'on trouve chez Alain, la figure du chef sert à incarner cette absence de limite, cette passion pour le pouvoir qui s'étend à tout et contre tous. On l'a noté à plusieurs reprises dans ce podcast, Alain essaie de rendre accessible sa philosophie, et notamment sa philosophie politique, au plus large public possible. Cela ne veut pas dire que la pensée d'Alain ne soit pas complexe, ou qu'il n'y a pas de passage très difficile dans sa philosophie ou dans son expression. Cela veut dire qu'Alain s'efforce, quand c'est possible, et ce n'est pas toujours possible, d'illustrer concrètement sa pensée et de l'exprimer dans un langage certes magnifique d'un point de vue du style, mais sans jargon. C'est dans cet esprit qu'Alain parle des chefs, car cela lui permet de donner des exemples souvent amusants de la réalité du pouvoir qui, elle, est rarement amusante et est bien souvent désespérante. Cela permet aussi d'individualiser la figure de l'autorité en lui donnant un visage précis. Le pouvoir, ce ne sont pas seulement des mécanismes, ce sont des personnages souvent indignes. Des chefs, on en trouve donc des dizaines dans les pages d'Alain, des chefs et des sous-chefs aussi bien, des chefs de bureau ou des chefs de service, tous réactionnaires, écrit-il en 1906 quand il critique la bureaucratie. Tout en haut des bureaucrates, il y a le cabinet du ministre et bien entendu le chef de cabinet, comme ce petit chef de cabinet souvent porté trop jeune à de hautes situations qui conviendraient mieux à un homme fatigué par de longs services, comme Alain le note dans un propos du 12 mai 1910. Du reste, tous les propos qui seront cités dans cet épisode du podcast sont issus des éléments d'une doctrine radicale, sauf exception que je signalerai au fur et à mesure. Il y a au-dessus du chef de cabinet, encore le chef d'État, le grand chef, le chef militaire ou, plus sympathique parfois, le chef d'entreprise. Il y a même des chefs métaphoriques, comme ces chefs de négociation qu'on trouve dans le grand livre d'Alain sur la religion intitulé « Les dieux ». Les chefs se rencontrent partout, c'est qu'ils sont en quelque sorte inévitables. Et c'est dans un propos sur le socialisme, un propos du 16 juin 1922, qu'Alain s'en explique clairement, parlant de l'organisation hiérarchique du parti et montrant que cela produit nécessairement des chefs qui se mettent au-dessus de la masse et que cela de manière d'autant plus frappante s'il s'agit d'un parti qui prône et veut défendre l'égalité fondamentale des êtres humains. C'est le chef de section socialiste qui permet à Alain de développer l'idée. J'aime les socialistes cotisants et je suis disposé par sentiment à me trouver toujours avec eux, pour le meilleur et pour le pire, comme dit le proverbe. Mais dans leur chef de section et dans leur prêcheur de doctrine, j'ai presque toujours reconnu l'officier né. Je fais une exception pour Jaurès, en qui j'ai reconnu du plus loin le simple soldat de vraie vocation. À ce signe notamment qu'il n'a jamais cherché à me convaincre et qu'il n'y a même pas pensé. Me voilà donc boursier toujours et toujours mal pensant, toujours revenant à dire ce que toutes les grenouilles pensent ainsi d'être piétinées, toujours à dire ce qu'elles ne savent pas dire ou ce qu'elles n'osent pas dire. Retournant ainsi, noire ingratitude, la rhétorique contre ceux qui me l'ont apprise et piquant César avec mon coupe-chou. Un bon diable et grand ami à moi toujours, quoiqu'il ait pris des airs d'adjudant, m'a jugé d'un mot comme je revenais de guerre. « Soldat mécontent », a-t-il dit. Veuillez bien comprendre combien notre politique serait simple et claire s'il était interdit de parler ou d'écrire à ceux qui ne sont pas au moins capitaines. Voilà, il faut choisir. Être avec les hommes, être mécontent, c'est-à-dire critique, ou bien laisser faire les officiers nés, les chefs de tous ordres. Alain n'est pas né officier, il est né, comme il écrit ailleurs, boursier, c'est-à-dire sans fortune propre et fier de cette absence de fortune. Mais au fait, pourquoi y a-t-il des chefs? Le propos du 22 septembre 1922 annonce une explication. Il y a une part de l'autorité qui est certainement utile et bonne, comme on voit par le gendarme ou par l'agent en voiture. Il y a le savoir aussi qui fait autorité. Il faut un architecte au-dessus du maçon et un calculateur au-dessus des matelots. Et la richesse aussi fait autorité car chacun veut régner sur ce qu'il a et la clameur des propriétaires est aussitôt entendue. Ainsi, les pouvoirs sont armés d'opinions raisonnables. Et le mécontent même apprend à se taire parce qu'il y a d'autres mécontents qui sont paresseux, envieux, ivrogne, débauché, avec qui l'on ne veut point être. Bref, avouons, et Alain l'avoue dans le propos du 23 juin 1922, nous sommes tous engagés dans cette autre coopération pour la sûreté. Nous trouvons des chefs et une puissante hiérarchie, nous ne voyons même pas bien comment nous pourrions limiter d'avance les pouvoirs de l'agent et du garde dans l'incendie, la peste, la panique, l'arix, la force publique nous lie. Même dans beaucoup de cas, nous devons lui dire merci. Étonnant propos. On a besoin d'autorité. C'est ce qui permet la vie en commun, le maintien de l'ordre, la construction des habitats, des villes, la marche des navires, la paix sociale. On est même surpris de voir qu'Alain ne semble rien avoir à redire à l'influence de la richesse. Après tout, les riches font la prospérité de l'ensemble. Quant au mécontent, on retrouve le mot, le soldat mécontent qu'Alain est. Pour ainsi dire, il voit bien que sa critique pourrait passer pour de la négligence, de la paresse ou du vice. Les pouvoirs sont nécessaires, les chefs qui l'incarnent et l'exercent aussi. Faut-il vraiment dire merci, comme Alain le suggère? En fait, en continuant de lire ses propos, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'Alain a en tête. Après avoir célébré l'autorité, son efficacité et sa nécessité, il conclut de manière inattendue. Toutes ces causes ensemble font que l'édifice de l'oppression est admirablement solide et le sera toujours. Le pouvoir est nécessaire, mais cela ne change rien à la situation. Le pouvoir aboutit à l'oppression, il y a un gouvernant, un gouverné, un maître, un esclave. Et au contraire, plus le pouvoir est efficace, plus son emprise est grande. En assise, on dira d'ailleurs que cette conception du pouvoir, extrêmement complexe chez Alain, n'est pas sans anticiper ce qu'on trouve plus tard chez Michel Foucault, par exemple, où la question du pouvoir n'est pas abordée sur la question de la justice du pouvoir, mais de son efficacité, son accroissement, et in fine, sur le peu de liberté que le pouvoir finit par avoir. Pour revenir à Alain, on voit très bien que ce qui est le plus grand éloge du pouvoir est aussi sa plus grande critique. Du coup, revenons au propos du 22 juin 1923, ici je n'aperçois que deux opinions, car il faut adorer les pouvoirs, ou bien au contraire les surveiller sans cesse et limiter leur action au strict nécessaire, c'est-à-dire ne point permettre qu'ils décident arbitrairement et secrètement les maux et les remèdes, mais au contraire les avertir, les modérer et les changer. On l'aura donc compris, Alain est pour la limitation des pouvoirs et des pouvoirs des chefs. Limiter, non pas abolir, parce que, encore une fois, le pouvoir est nécessaire, et donc les chefs sont nécessaires car il faut admettre la part de l'autorité utile et bonne. Mais il faut aussi bien comprendre que cette part utile et bonne est potentiellement le plus grand danger du pouvoir et la plus grande oppression par les chefs. Les citoyens admettent aisément qu'il faut des chefs et des administrations, comme il faut des paveurs et des plombiers. Ils admettent moins aisément que l'homme de la rue soit toujours gêné et limité et les pouvoirs libres. Le citoyen opprimé, le pouvoir libre. Telle est la situation que décrit le chef. Le mot important cependant est ici les citoyens. Il faut comprendre en effet que cette réticence, cette résistance, cette critique à l'égard du pouvoir n'est pas simplement une attitude personnelle, l'idiosyncrasie du soldat mécontent s'exprimant sous la plume d'Alain. Pour Alain, c'est une attitude qui est nécessaire collectivement. La volonté de limiter le pouvoir ne ressort pas simplement des positions des individus, mais s'incarne dans un régime politique qui est le régime républicain lui-même. Citons le propos du 10 octobre 1910. C'est justement contre cette coalition des tyrans que la République se définit. Autrement, que serait-elle ? Que serait-elle si l'électeur doit donner un mandat en blanc à ceux qui tenaient la puissance sous l'Empire, qui la tiendraient sous un roi et qui en fait la tiennent presque tout aujourd'hui chez nous ? En peu de mots, il y a une conspiration permanente des riches, des ambitieux, des grands chefs, des parasites et des flatteurs contre les masses électorales. Voilà pourquoi beaucoup de députés qui voudraient un brevet d'homme d'État jouent un double jeu, sont radicaux en province et modérés à Paris. Il y a une conspiration des grands chefs, mais de tout ce qui va avec. Et le suffrage secret est la solution contre cette conspiration. Mais pourquoi y a-t-il une conspiration des chefs ? Pourquoi y a-t-il une conspiration des pouvoirs ? Eh bien, Alain avance deux grandes raisons. La première, c'est que le pouvoir doit nier toute résistance, ce dont Alain trouve l'image à la guerre qu'il a faite pendant la Première Guerre mondiale. Et il l'a faite au front, rappelons-le, et en tant qu'homme de troupe, non pas en tant qu'officier. Ce qui lui donne une image plutôt réaliste du pouvoir des officiers et, d'après lui, du pouvoir tout court. Une action ne peut réussir que par l'accord des exécutants, et quand ils auraient la meilleure volonté du monde, ils ne s'accorderont pourtant que par la prompte exécution des ordres, sans qu'aucun des subordonnés s'amuse à juger ou à discuter. Qu'est-ce à dire ? Sinon que devant le refus ou seulement l'hésitation, le chef doit forcer l'obéissance, ce qui conduit aussitôt à la dernière menace et l'instant d'après à l'exécution, sans quoi la menace serait ridicule. J'admire que les gens qui reçoivent aisément la guerre parmi les choses possibles invoquent pourtant ici l'humanité et la justice comme si l'on avait le loisir d'être humain et juste quand l'ennemi vous presse. Il faut savoir ce que l'on veut, tout pouvoir est militaire. Alain offre de cette analyse un résumé mystérieux au chapitre 7 des dieux. À n'importe quel chef de guerre, on n'offre jamais que ce qu'il exige. Autrement dit, le chef doit demander l'impossible pour être sûr d'être obéi. Et s'il n'est pas obéi, il doit punir sévèrement. Et de manière terrible, à la guerre, où l'insubordination est punie de mort. La guerre offre donc le modèle de l'exigence du pouvoir, ce caractère potentiellement impitoyable et tyrannique du chef. Car si le chef renonce à exercer par tous les moyens son pouvoir, alors il risque de le perdre, et donc de n'être plus un chef. Et cette figure du chef qui exige totalement des êtres humains qui lui sont subordonnés, est une situation typique de la guerre, mais qui n'est pas limitée à la guerre. En réalité, toute forme d'exercice du pouvoir, par n'importe quel chef, a cet horizon de violence tyrannique sur les autres que la guerre révèle à nu. Sans doute, Alain comprend que dans la situation ordinaire de la vie sociale, ce n'est qu'une potentialité. Il écrit par exemple le 12 janvier 1923 à propos du pouvoir économique du patron. Qu'est-ce que le patron le plus tyrannique comparé à celui du capitaine qui se croit le plus doux ? On peut se moquer du patron, et même devant lui, on peut le quitter. Même sous son pouvoir, on reste maître de son corps. On peut chanter ou rire. Le travail bien fait donne puissance. On a compris que ce n'est pas possible, en revanche, devant un officier. Le pouvoir, en son essence, doit être absolu, et le chef, comme figure du pouvoir, tend à l'être aussi. Mais il y a une deuxième raison qui n'est pas seulement liée à l'exercice du pouvoir, au mécanisme du pouvoir, mais à la personnalité du chef. D'une certaine manière, le chef n'existe pas, ou plutôt il n'existe pas seul. Il est pris dans le double système de ses propres passions et de l'organisation hiérarchique. Les passions d'abord. Elles sont celles de toutes les parties du système hiérarchique, du pouvoir et de l'obéissance. Ce système donne en effet à avoir le plus laid, comme Lacan l'écrit chez les êtres humains. Un chef de qui dépendent l'avancement, faveur et tout, voit le plus laid des hommes. Être salué d'une certaine manière est un mal dont on ne se relève jamais tout à fait. Le pouvoir corrompt. Il corrompt par la passion même des subordonnés. Cependant, le chef, lui aussi, est soumis à ses propres passions qui sont des passions de chef. Il est impossible que les puissants n'aient pas de passion, écrit Alain le 6 janvier 1910. Et n'aiment pas passionnément leur propre puissance. Tout diplomate aime ses projets, tout préfet de police aime l'ordre, tout chef de bureau travaille à étendre son droit de contrôle et ses prérogatives. Et comme tous sont complices en cela, il se forme bientôt un état gouvernant qui a ses maximes et ses méthodes et qui gouverne pour sa propre puissance. Ce jeu des passions est renforcé dans l'organisation hiérarchique. Propos du 15 octobre 1912. Le chef est en même temps un subordonné sur lequel s'exerce un pouvoir vraiment royal. Il se sait responsable et il voudrait en échange être libre et maître dans son domaine. Dans l'armée, encore pis, car le pouvoir console de l'obéissance. Doit-on conclure sur une note pessimiste que l'oppression est inévitable ? Pour Alain, il ne s'agit pas de se lamenter sur l'état des choses. Si cette structure politique est bonne ou mauvaise, c'est temps perdu de le rechercher. Elle est, écrit-il. Mais cette existence du pouvoir nous ramène aussi bien à la nécessité de limiter les pouvoirs, d'où finalement une figure plus positive du chef. Elle est d'abord celle d'un chef qui, en quelque sorte, s'auto-limite dans ses passions et dans sa façon de faire. Il s'agit par exemple d'un chef pauvre qui n'aurait pas de réseau qui l'inciterait à laisser aller ses passions. Et du coup, Alain finit par opposer un tel chef, rare il est vrai, au puissant. Je crois pouvoir dire que l'opinion en notre pays vaincra ce système politique, le plus rusé qui soit, par une obstination étonnante. Ainsi, dans le temps même où il est évident que partout les hommes d'affaires se haussent à la politique, nous en sommes encore et toujours à vouloir séparer la politique et la finance et à honorer quelques chefs pauvres qui ne fait partie d'aucun conseil d'administration. Ce chef, la situation nous le refuse encore, mais les grands politiques se moquent. Il faudra pourtant bien que le veston râpé du radical soit finalement le maître, maître détesté et méprisé si l'on en croit l'élite académique et l'élite plutocratique, mais enfin le maître, ou pour mieux dire l'invincible arbitre avec son bâton blanc dans sa giberne, mal payé et imperturbable. Première figure du bon chef, en quelque sorte, celui qui n'est pas pris dans ce réseau des obligations hiérarchiques, celui qui accepte d'en payer le prix, littéralement, en étant mal payé et imperturbable, et si Alain parle du radicalisme ici, c'est que pour lui, c'est l'esprit du radicalisme. Et d'ailleurs, Alain en a vu le modèle de ce chef pauvre et respecté au début du siècle chez le grand politique français Émile Combes. Combes, écrit-il le 3 janvier 1922, tribun du peuple, pauvre et redouté, reste le modèle de ces chefs que les puissants méprisent, mais qu'ils devront supporter si l'électeur tient ferme. L'autre figure du chef, honorable et positif, est celle d'un dirigeant nourri par l'expérience. J'ai remarqué un effet que je n'avais point prévu, qui est contre les lieux communs, c'est que ceux qui deviennent officiers et qui ont d'abord connu l'état de l'homme de troupe et du gradé subalterne montrent dans la suite de la simplicité sans majesté aucune et sans insolence, comme s'ils voulaient se faire pardonner d'être chef. Il y a sans doute des exceptions là-dessus, mais enfin, je n'en ai point vu, écrit-il le 12 janvier 1923. Issu du rang, l'officier est un chef qui veut se faire pardonner d'être chef. Et ce n'est pas de la complaisance, c'est de l'expérience. Et Alain est très clair sur ce point. Et c'est pourquoi je voudrais terminer cet épisode du podcast Alain par une lecture un peu complète d'un propos recueilli dans le volume « Le citoyen contre les pouvoirs ». Le mot « chef » n'y est pas écrit, mais le texte est consacré à une des, en quelque sorte, têtes de turc d'Alain, qui sert d'incarnation bien souvent au chef, et bien souvent au chef impitoyable ou incompétent, ou les deux à la fois, à savoir le polytechnicien, l'ancien élève de l'école polytechnique, qui à l'époque était une figure d'ingénieur officier militaire. Et d'ailleurs, Alain a eu affaire à bien des officiers polytechniciens durant son service militaire à la guerre. Alain. Les naturalistes ont eu l'occasion, depuis environ l'année 17, de décrire une nouvelle espèce de polytechnicien qu'ils ont appelé le polytechnicien bleu. J'avais depuis longtemps observé le polytechnicien commun ou polytechnicien noir, et selon mon opinion, le bleu n'est qu'une mutation due à des circonstances particulières. Au reste, même l'habitat, même mœurs, même nourriture, vers l'année 18, la variété bleue a presque remplacé l'autre. Aux environs de leur trou, on les rencontrait en colonies régulières, remarquables d'abord par cette couleur bleue azurée, mais distincts aussi du type commun, par des membres plus gros et plus forts, un visage mieux arrosé de sang, une voix plus sonore, des rires et enfin une certaine fantaisie en toutes leurs démarches que l'on n'observait jamais chez la variété noire. Les noirs, on en voyait encore quelques-uns, par deux ou trois, plus pâles, plus maigres, plus mécaniques en leur allure. Maintenant, en rang noir et serré, et de nouveau, c'est la variété bleue qui est rare. Hâtez-vous, si vous voulez observer la variété bleue, Polytechnicus querulus, je la crois destinée à disparaître avec les circonstances qui l'ont créée. Et le retour au type phénomène connu s'est fait brusquement, comme la mutation elle-même. Bel exemple de la permanence des espèces. Le polytechnicien noir, Polytechnicus niger, a fait la guerre, mais la guerre a fait le polytechnicien bleu. Le polytechnicien noir a produit de sa substance la poudre sans fumée, invention parfaitement réussie et parfaitement inutile. D'après cette idée fausse que lorsque l'on sait où se trouve une pièce, il n'y a rien de plus facile que de la détruire. Le même insecte noir a construit des pièces à tir rapide et à courte portée. D'après deux idées non moins fantastiques, l'une qu'au-delà de 7 km on ne voit plus où on tire, et l'autre qu'une grêle de projectiles ne peut manquer d'anéantir l'ennemi qui s'avance en rang serré. C'est ce même animal singulier qui, pendant toute la guerre, n'a cessé de vérifier les comptes de projectiles et de signaler avec une énergie toute militaire les erreurs d'addition et de soustraction. Le polytechnicien bleu fut jeté dans la guerre avant d'avoir pris les notions consacrées, la politesse circonspecte et l'habitude de compter les galons au lieu de poser les preuves. Il a compté les choses elles-mêmes au lieu de vérifier les états. Il a observé au lieu de lire, de résumer, de transmettre. Il a jugé l'ennemi, ses hommes, ses chefs, ses règlements et tout comme un enfant qu'il était. En même temps, d'après la sévère préparation des sciences et exactes, il est devenu ingénieux au contact de la nécessité. Il fait nombre de propositions raisonnables qui ont été écartées. En revanche, il a pris beaucoup de décisions utiles qui n'ont pas été remarquées. On comprend que la mutation dont je parlais ne s'est pas limitée au caractère extérieur. Toutes les idées ont été soulevées et déplacées et ont repris équilibre d'après tout un autre plan. Il est revenu plein de sciences réelles et de sagesse rustique. S'il surmonte l'ennui administratif, s'il ne s'enfuit pas dans l'industrie, nous verrons du nouveau, moins de respect, moins d'intrigue, plus de pensée dans les finances, les ponts, l'hydrographie et le télégraphe. Pour peu de temps, le type noir, polytechnicien niger, se reforme déjà en son intégrité, nourri d'opinions avantageuses et plus soucieux de faire son chemin parmi les hommes que de faire son trou dans les choses. Observateur de visage, poli et circonspect. Riche d'arguments et pauvre de raison, toujours consultant et délibérant, péremptoire dans les petites choses, hésitant dans les grandes, usant des millions à tâtonner, mais relevant une erreur d'un sou. Heureux seulement de quelques théorèmes de géométrie générale qui, il est vrai, ne servent à rien, mais qui ne contrarient personne. Si vous exercez la moindre responsabilité, il faut s'exercer à être un polytechnicien bleu, c'est-à-dire un polytechnicien bleu horizon, un polytechnicien qui a fait la guerre, qui a de l'expérience. Et Alain, finalement, on se dit qu'il pourrait être compatible avec de telles chaînes. Et ceci sans frein. Nous consacrerons le prochain épisode au rapport entre Alain et Freud. Dû à une surcharge de travail, nous repousserons d'une semaine la publication de l'épisode 6 du podcast sur Alain et Freud. Et nous nous retrouverons le 28 février.